On va parler ce soir, on va continuer le thème de la semaine dernière et on va parler d'être un disciple de Jésus et de réfléchir un petit peu à ça. Et je vais juste sortir en particulier un point pour ce soir qui va dans le sens déjà qui a été introduit par Bruno. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'être un disciple de Christ est une illusion à poursuivre, un idéal inatteignable, qui peut-être s'avérera vain, inutile et finalement juste une perte de temps. Certains croyants, malheureusement, déçus, dans l'incompréhension, dans la déception, dans le découragement, peuvent en arriver à penser comme ça, tristement. Ou est-ce qu'être un disciple, c'est l'objectif final, le but de notre vie, c'est de marcher avec Jésus, de connaître Jésus, de grandir en Jésus, jusqu'au jour où on sera avec lui. On aimerait bien que l'histoire d'Enoch se reproduise avec nous, hein, que le Seigneur nous prenne sans même passer par la mort. Peut-être, qui sait, peut-être pour les plus jeunes. Je ne donne pas de faux espoirs, on ne sait pas. Mais même pour les plus âgés, dans tous les cas, on va y aller, hein. Donc, on ne craint pas. Alors, on va réfléchir un peu à ça. Et dans un domaine en particulier, on va lire un texte. La première chose, à votre avis, quelles sont les qualifications pour être disciple? Bonne question. Il faut avoir le bac, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faut mesurer plus d'1,80 m. Il y en a pas mal qui sont éliminés, moi le premier. Il faut ne pas être chauve. Il y en a d'autres qui sont éliminés. voilà, enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il faudrait? Alors, allez, je vais pas vous faire bisquer plus longtemps, je vais vous le lire. Vous allez voir, vous allez aimer. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26. Il dit: Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, voilà, donc ceux qui ont été appelés à être les serviteurs, les amis, les disciples de Jésus, à marcher avec lui, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Alors, qui l'a appelé? Qui l'a choisi? Mais Dieu a choisi les choses folles du monde. Ah, ça nous arrange, ça. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Donc, il n'y a pas besoin de mesurer 1,80 m. Il n'y a pas besoin d'avoir des biceps. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros cerveau. Et Dieu a choisi les choses viles du monde. Alors, carrément. Mais c'est extraordinaire. Il a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Donc les qualifications pour être disciple, c'est être rien, c'est réaliser qu'on n'est rien. C'est parce que souvent les gens se cachent derrière une richesse matérielle, intellectuelle, artistique, un don, je ne sais pas moi, c'est leur identité, c'est leur valeur, une noblesse. Bon, on n'est plus à cette époque où, peut-être dans certains milieux, ça existe encore, les noms nobles, les deux de quelque chose. Hein. Et tout ça, pourquoi? Parce que, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Donc ça, pour moi, c'est encourageant de voir que pour être disciple, c'est pas d'avoir quelque chose en nous de particulier qui ferait que une qualité, un don, un talent, une puissance. C'est d'avoir un cœur qui réalise qu'il a besoin de Dieu. Qu'il n'est rien, mais que lui est tout, et qui est ce Dieu qui est tout, qui est inaccessible, s'est rendu accessible. Ce Dieu qui est infini, éternel, immuable, saint, juste, pur, s'est approché de gens et vient chercher des gens, vient chercher, il est venu, hein, le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. C'est cela qu'il est venu chercher. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Et c'est peut-être pour ça qu'on est là, d'ailleurs, ce soir. Donc un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus parce qu'il a découvert l'amour de Dieu. Parce qu'il a, comme l'a chanté, j'ai aimé le chant, quel jour de joie quand j'ai entendu que Dieu m'aimait. Quel jour de joie quand il est venu me sauver, quand il est venu m'appeler, moi. Vous imaginez, on est ce Zachée sur cet arbre-là. On est cet homme indigne, vil, pécheur, éloigné, perdu, et Jésus le voit et il l'appelle. C'est magnifique. C'est magnifique. Et en fait, quand nos yeux s'ouvrent, quand notre cœur s'illumine, hein, quand les yeux de notre cœur s'illuminent, et qu'on perçoit, on commence à saisir. On a trouvé, comme Pierre qui a cette révélation, et donc cette révélation de Dieu qui répond à la question « Qui dites-vous que je suis ?» et qui répond bah, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » D'accord ? Et Jésus lui dira d'ailleurs « C'est une révélation, une grâce que tu as eue. » Une grâce quand Dieu parle, quand Dieu se révèle, quand Dieu nous ouvre les yeux, quand Dieu nous permet de réaliser. On a trouvé. Voilà, on a trouvé. On a trouvé, ça y est, on n'a plus besoin de chercher. On a trouvé la réponse à la vie, le sens. On a trouvé le Seigneur. On a trouvé le Sauveur. Donc c'est lui qui donne le sens à ma vie. Et qui vient me chercher et me permet de réaliser que par grâce, je peux maintenant. J'ai un trône de grâce, j'ai un accès possible qui n'existait pas. Hein, vous vous rappelez dans l'Ancien Testament, le voile devant le lieu du très saint, c'était inaccessible. Mais maintenant, c'est devenu accessible. Par la grâce, par le sang de Christ et le sacrifice de Christ et le salut. Parce que le désir, et c'est ça, c'est que le désir de Dieu, c'est d'avoir un peuple. Le désir de Dieu, c'est d'avoir des hommes et des femmes qui répondent à cet appel, à cette invitation, qui désirent devenir un membre de son Église, de son peuple, qui désirent devenir un disciple, quelqu'un qui se laisse émerveiller, attirer, aimer, et qui répond par l'amour à cette invitation. Et qui veut ressembler à qui ? Ben maintenant, on veut ressembler à Jésus. C'est ça, un disciple. Il veut l'imiter, il veut le ressembler, il veut être comme lui. Et la chose magnifique et extraordinaire, c'est que c'est le projet de Dieu pour tous ceux qui l'appellent. N'est-ce pas ? On est prédestiné à lui ressembler. Hein ? Et il nous a, dans Romains chapitre 8, car ceux qu'il a connus d'avance, verset 29, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. On rentre dans un projet que Dieu a déjà préparé et accompli pour nous. Et nous qui sommes rien, eh bien nous allons être l'épouse de Christ. On va porter le nom de Jésus. On va être les ambassadeurs. On va être les disciples de Jésus-Christ. Et maintenant, la vie éternelle, qu'est-ce que c'est ? Jean 17,3, c'est de le connaître. Et c'est de rentrer dans ce dialogue avec Dieu, avec sa parole, écrite, là, inspirée, le Saint-Esprit, le corps de Christ, une vie qui commence à être dans la soumission, dans l'écoute, dans l'obéissance, dans la pratique de la parole de Dieu, et une vie qui commence à être transformée à l'image de Christ. Voilà ce que Dieu nous propose. Et par rapport à être disciple, et je terminerai avec ça ce soir, on reviendra encore sur d'autres points, mais peut-être, si, évidemment, il y a un point quand même avant de parler de ça, où est-ce que je l'ai mis ? La motivation, la seule véritable motivation, c'est l'amour. D'accord, c'est l'amour. L'amour qu'on a goûté, qu'on a pressenti, qu'on a découvert, c'est l'amour de Dieu. L'amour démontré à la croix, l'amour de ce salut qui est offert, qui est gratuit, l'amour d'un Dieu qui ne s'impose pas. Il aurait tous les droits de s'imposer, mais il ne s'impose pas. Un amour qui suscite une réponse. Et cette réponse, c'est l'amour. On peut répondre que par l'amour à l'amour. Enfin, non, malheureusement, tout le monde ne répond pas. Il y en a qui ignorent, il y en a qui rejettent, il y en a qui ne veulent pas, mais quand on l'a reçu, ben on répond par l'amour. C'est pour ça que notre amour pour Dieu trouve son origine dans l'amour qu'il a pour nous. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ne cherchez pas l'amour de Dieu en vous, vous ne le trouverez jamais. Mais répondez à l'amour de Dieu et oui, vous aurez un amour sincère, véritable, qui a été engendré par Dieu lui-même. Et j'aime ce verset dans Cantique des Cantiques, qui dit « Elle a perdu à un moment donné. » Il était là, et puis elle n'est pas venue tout de suite, et puis il est parti, et puis elle le cherche. Et elle dit en Cantique des Cantiques 5, verset 8, « Je vous en conjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous ? Que lui direz-vous ? Qu'est-ce qu'on veut dire à Jésus ? Ah, je suis malade d'amour. Je suis malade d'amour, c'est ça que je veux lui dire. C'est que maintenant, s'il n'y a pas Jésus dans ma vie, il manque l'essentiel. On pourrait avoir tout l'argent du monde, on pourrait avoir la plus belle maison du monde, la plus grosse voiture, le plus grand bateau, le plus grand, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, le plus grand succès, le plus grand talent, le plus grand, mais s'il n'y a pas Jésus, s'il n'y a pas la paix de Dieu, s'il n'y a pas la joie de Dieu, s'il n'y a pas l'amour de Dieu, s'il n'y a pas la communion du Saint-Esprit, s'il n'y a pas la présence de Dieu, on est perdu. Et j'aimerais parler d'une des caractéristiques du disciple qui fait qu'il est un disciple. Parce que Dieu appelle, mais tout le monde ne répond pas, forcément. Et un disciple, c'est quelqu'un qui aime la parole de Dieu, qui répond à Christ, à un Christ vivant, qui va oser manger et boire la parole, même s'il ne comprend pas tout ce que ça veut dire. Et vous connaissez ce texte dans Jean chapitre 6, où Jésus parle avec ses disciples. Et il commence à dire des choses. Il parle qu'il est le pain de vie, le pain vivant, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. C'est en Jean chapitre 6, verset 51. Quelquefois, la parole de Dieu est difficile à comprendre. Et si on lit dans les Écritures, les disciples, souvent, ils étaient un peu dans la confusion. Ils avaient même, quelquefois, ils craignaient de l'interroger. Notamment quand il leur annonce qu'il doit aller à Jérusalem et qu'il doit mourir et être rejeté et mourir. Là, ils ne comprennent plus. Là. Et là, dans ce passage aussi, c'est compliqué. Hein. Attends, manger la chair, de quoi il parle ? Et on n'est pas des cannibales, nous, c'est impossible. Hein. Et après, d'ailleurs, le verset, il dit, là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger ? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui ne mange pas ma chair... Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Alors, manger la chair, déjà, c'était... Mais boire le sang, alors qu'il ne devait pas manger un animal avec son sang, je veux dire, c'est impossible pour un juif. De quoi il parle ? Et c'est sûr que il faut, pour continuer le dialogue avec Dieu, en restant dans l'introduction de Bruno, pour continuer le dialogue avec Dieu, il faut apprendre à se laisser enseigner, instruire dans la pensée de Dieu, dans les choses spirituelles, dans les pensées qui nous dépassent. Parce que si on reste sur notre niveau de pensée à nous, on n'a pas de discussion possible. Si la parole de Dieu, on ne la laisse pas, même si on ne la comprend pas, on dit « Ok, Seigneur, peut-être je ne comprends pas ça. Seigneur, ouvre mon esprit, ouvre mon intelligence. Aide-moi à comprendre les choses qui sont spirituelles. » Parce que moi, de toute façon, la chair ne peut pas comprendre ces choses-là. On a besoin de l'esprit de Dieu. Bien évidemment, on est encore dépendant pour entretenir ce dialogue. On a besoin du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas qu'il faut juste abandonner et dire bah, « non, c'est trop compliqué, j'arrête ». Il ne faut pas se décourager quand on échoue, quand on tombe ou quand on voit qu'on est trop court. Juste reconnaissant, Seigneur, j'ai besoin d'aide. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Et après, un peu plus loin, verset 60. Plusieurs de ses disciples, des disciples, des gens qui suivaient, des gens qui écoutaient, des gens qui étaient émerveillés, des gens qui avaient été touchés. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Est-ce que quand la parole est difficile, quand la parole me dépasse, quand la parole m'engage à aller plus loin, est-ce qu'on dit « Ah ben, oula, 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 ça c'est « je ne comprends pas ». Et je ne veux même pas essayer de comprendre. Hein ? Je ne veux surtout pas comprendre, peut-être. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Et donc, on a besoin du Saint-Esprit, on a besoin de cette rencontre, on a besoin de cette communion, on a besoin de cette parole vivante qui vient nous rencontrer là où on est, qui produit la vie et qui éclaire. On sait que Jésus, c'est la lumière, il a besoin d'éclairer, et c'est que par son esprit qu'on peut être éclairé. Et après, un peu plus loin, justement, verset 66, il dit « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. » C'est triste. Et c'est le travail que l'ennemi essaye de faire. C'est que dès qu'on ne comprend plus, dès qu'on a du mal, dès que face à notre quotidien, à notre réalité, la parole de Dieu ne nous rencontre plus, ou on ne laisse pas notre oreille, notre cœur demander de l'aide pour la recevoir, pour continuer de l'écouter, eh bien on se retire. Et c'est le danger, bien évidemment, c'est le danger. Et après, vous connaissez cette histoire où il dit aux disciples, aux douze, eh bien vous voulez pas partir aussi ? Et là, Pierre, une fois de plus, alors Pierre, des fois, il a des excès à côté, mais il est en plein dans le mille. Hein. Et là, il dit, mais à qui d'autre est derrière nous ? Je veux dire, si c'est plus Jésus qu'on suit, on est disciple de qui ? De quoi ? De moi, de mes pensées, de ma logique, de mon petit monde à moi ? Parce que c'est ça que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Alors, évidemment, il n'y a personne qui parle comme Jésus. Il n'y a personne qui donne une espérance comme Jésus. Il n'y a personne qui offre un salut comme Jésus. Il n'y a personne qui nous aime comme Jésus. Il n'y a personne qui peut répondre aux vrais besoins de notre être profond comme Jésus. Il n'y a pas une autre parole. Même si on ne comprend pas tout. Même si les dimensions de Dieu nous dépassent bien largement. Mais regardez le rapport entre le fait d'être disciple et la parole de Dieu. Je vous lis quelques versets dans le livre des Actes. Acte 2, 41. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. » Ils écoutent la parole, ils reçoivent la parole, ils acceptent la parole, ils sont baptisés, et le nombre de disciples augmente. Verset 7 du chapitre 6. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. La parole se répand et le nombre de disciples augmente. C'est la parole. C'est la parole qui est à la source de tout. D'accord ? Acte 12, 24. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmenter. Et en fait, Jésus dira d'ailleurs en Jean 8, 31, aux Juifs qui avaient cru, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Et c'est ça la clé, n'est-ce pas? C'est d'être de celui qui écoute, et je terminerai avec ce dernier verset, Ésaïe 50, verset 4, « Le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute ses disciples. » Un disciple, c'est quelqu'un qui sait écouter. Bien sûr, là, ça parle de manière prophétique de Jésus-Christ, mais c'est Jésus en nous. Et Jésus en nous, c'est quelqu'un qui écoute. C'est quelqu'un qui se place sous la parole, avec ce désir de, même si je ne comprends pas tout, je veux essayer de vivre cette parole. Je veux que cette parole, je veux la recevoir par la foi. Je veux la manger, je veux la boire, j'ai soif et faim pour cette parole. Je veux qu'elle opère en moi son œuvre et me produise en moi son œuvre, une transformation. C'est la parole, cette graine incorruptible, cette semence incorruptible dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, qui nous a régénérés, d'accord ? Elle est permanente, elle est vivante et elle est éternelle. C'est la parole de Dieu. Donc c'est, voilà, que Dieu nous interpelle, m'interpelle, avec ce livre-là, avec sa parole. Pour un disciple, il y a besoin de cette relation avec ce livre. L'Église, bien sûr, avec le Saint-Esprit, avec mon discours avec Dieu, et c'est alimenté par ce livre-là. Et par mon expérience, par ma réalité, on vit pas sur une planète extraterrestre, hein. On est bien sur Terre. Mais à force d'écouter, à force de croire, de mélanger la foi à ce qu'on entend, cette parole, elle produit une transformation, elle renouvelle notre intelligence. Elle éclaire, elle nous donne du vocabulaire pour parler avec Dieu, pour nous approcher de Dieu, pour communiquer avec Dieu, pour écouter Dieu davantage, pour grandir dans notre marche avec Dieu. Donc, nous encourager ce soir à demander à Dieu de réaliser que notre plus grand privilège, c'est d'être un disciple de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de projets, de grandes choses, de grandeur dans cette humanité, de gens qui courent après les grandes choses, mais c'est celle-là la plus grande. Les autres sont éphémères et terrestres, celle-là est éternelle. Parce que qu'est-ce qu'on va faire dans le ciel, dans le paradis avec le Seigneur? On va continuer à s'entretenir. Donc, il y en a du vocabulaire. Vous imaginez la richesse d'un vocabulaire qui s'intègre en nous par l'expérience, par la vie, par l'œuvre de Dieu en nous. On aura de quoi discuter avec le Seigneur. Imaginez, je termine, un enfant qui arrive au ciel, il a son vocabulaire à lui, avec ses peut-être les 500 mots qu'il connaît. D'accord ? Et ça va être merveilleux de façon au ciel. Mais imaginez maintenant un homme de Dieu qui connaît la parole de Dieu, ou encore un scientifique qui est chrétien, qui a étudié dans son domaine avec très très pointu, et qui arrive avec ce qu'il a découvert, quand il va rencontrer celui qui est à l'origine des lois, de la création, de tout ça, vous imaginez la discussion qu'il pourra avoir avec le vocabulaire qu'il aura acquis, qu'il aura étudié, qu'il aura découvert, ou nous avec ce vocabulaire qu'on aura acquis. Ça va être extraordinaire. Donc, je veux nous encourager à réaliser ce privilège de répondre à l'appel de Dieu, de dire « Ok ». Parce qu'on est tous, on a tous les qualifications pour le job. D'accord ? Il suffit juste de dans notre cœur, humblement, de dire « Ok ». Il y a un prix, on verra la prochaine fois le prix, peut-être, à payer. Mais comparé à la bénédiction qu'il y a à avoir pour la vie ici-bas, mais surtout pour la vie là-haut. Et c'est sans commune mesure. Seigneur, merci. Merci pour cette parole, merci pour ce dialogue, merci pour ce vocabulaire. Et je te demande de nous exercer à comprendre, à grandir, à découvrir ces pensées qui nous dépassent totalement. Tes pensées, Seigneur, qui sont la vérité, qui sont éternelles. Donne-nous cette intimité de plus en plus dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.